Une enquête sur le business des grands chefs cuisiniers, c'est incroyable.
Capital, jamais l'économie n'a été aussi captivante. Capital, premier magazine économique vendu en France. Disponible chez tous les marchands de journaux. Hé, tu me le prêtes ?
Il est 10h, vous êtes sur Europe 1. L'information tout de suite, c'est avec Alexis de la Fléchère. Bonjour Alexis.
Bonjour Elliot, bonjour à tous. C'est le grand départ pour la flamme olympique remise hier au président du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024, Tony Estanguet, à Athènes. Elle a passé la nuit à l'ambassade de France avant d'être déposée sur le Bélème, un mythique trois-mâts français qui vient d'ailleurs tout juste de quitter le port du Pirée. 12 jours de croisière avec une arrivée prévue à Marseille le 8 mai. Et c'est Florent Manaudou qui la récupérera, cette flamme sur le vieux port. Le nageur quadruple champion olympique choisi donc pour être le premier relayeur sur le sol français. Dans l'actualité aussi, cette nouvelle série de mesures dévoilées ce matin par le gouvernement pour soutenir le secteur agricole. Parmi elles, la version définitive du plan de réduction des pesticides, plan Ecophyto pour 2030, mis en pause en février. Il y a aussi de nouvelles aides à la trésorerie des exploitations, l'accélération de 100 projets de stockage d'eau ou d'irrigation. Et enfin, un plan d'aide à 3 départements du Sud frappés par les crises météorologiques. L'une se terminait hier, une autre va bientôt voir le jour. Emmanuel Macron annonce la création d'une nouvelle convention citoyenne avant la fin de l'année. Promesse formulée devant les 184 hommes et femmes de la convention sur la fin de vie. C'était leur dernière réunion hier. Le thème de cette prochaine convention citoyenne reste à déterminer. Et pourquoi pas, tiens, sur un sujet sociétal qui revient dans l'actualité. Pour ou contre la légalisation de la GPA en France? Selon un sondage CSA exclusif pour Europe 1 CNews et le JDD, les Français sont partagés sur le sujet, Alexis de la Fontaine.
Autoriser la GPA en France, c'est une idée soutenue par près de 60% des Français. Sans surprise, la gauche y est largement favorable, avec un résultat qui grimpe jusqu'à 71% chez les écologistes. Dans le camp présidentiel, alors qu'Emmanuel Macron refuse de légaliser la GPA au nom de l'éthique et de la dignité, seulement un tiers de ses militants sont sur la même longueur d'onde. À droite, c'est du 50-50. Les électeurs sont parfaitement divisés sur le sujet, bien que les Républicains soient farouchement opposés à la GPA. Par ailleurs, les résultats laissent apparaître un léger clivage de genre, 12 points de plus chez les femmes que chez les hommes. Un clivage également générationnel. Plus les personnes sont jeunes, plus elles soutiennent la GPA.
Alexis de la Fontaine, les perspectives n'étaient pas optimistes. Finalement, les agences américaines de notation Moody's et Fitch maintiennent leur note sur la dette de la France. Elles l'ont annoncé hier soir. La note souveraine reste au niveau AA2 et AA-, alors que le déficit public a lourdement dérapé à 5,5% l'année dernière dans le pays. Allez, direction Sciences Po Paris, et les manifestants pro-palestiniens ont trouvé un accord hier avec leur direction. L'école a accepté certaines revendications des étudiants qui occupaient les locaux depuis jeudi, comme la suspension des sanctions contre les élèves. Les manifestants ont donc quitté les bâtiments dans la soirée. Les abords de l'école avaient été, eux, évacués par les forces de l'ordre un peu plus tôt dans la journée. Puis à Gaza, peut-être une avancée diplomatique. Le Hamas indique ce matin étudier une contre-proposition israélienne en vue d'une trêve et d'une libération d'otages. Le mouvement islamiste dit qu'une réponse sera apportée après une étude complète de cette proposition dont on ne connaît pas encore précisément les contours. L'Ukraine et la Russie ont, eux, chacun lancé des attaques aériennes cette nuit. 68 drones ont été interceptés au-dessus de la Russie, annonce son ministère de la Défense. Plus d'une trentaine sur l'Ukraine. Allez, retour en France et on va s'intéresser au ciel. Bonjour Mickaël Poteau.
Bonjour Alexis.
Je crois que c'est pas très brillant aujourd'hui avec 8 départements en vigilance orange pour des orages violents.
Tout à fait Alexis. Cette vigilance est mise en place de 13h à la nuit prochaine et elle concerne la Charente, la Dordogne, le Gers, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne et le Tarn-et-Garonne. Alors pourquoi ? Eh bien parce que la dépression s'installe sur le golfe de Gascogne et elle fait stagner la perturbation arrivée hier soir avec beaucoup de pluie du Pays Basque en remontant sur les Pays de la Loire. Ces pluies vont glisser sur les côtes normandes et sur les Hauts-de-France, mais la perturbation va donc s'intensifier avec des orages violents accompagnés de grêles. Les épisodes seront courts, mais quand ça va tomber, ça peut faire mal. On pense à toutes les exploitations déjà touchées par le gel et cette intensité pluvieuse ce soir ira jusqu'en Île-de-France et en Bourgogne. Beaucoup de pluie sur les Cévennes, les Pyrénées. Et ailleurs, le temps est plus calme, semi-nuageux et plus venteux. Et pour les températures, aujourd'hui, de 11 à 23 degrés.
Merci beaucoup, Mickaël. Il est 10h04 sur Europe 1, l'heure de retrouver face à Philippe Devilliers. C'est avec vous, Elliot Deval.
Merci Alexis de la Fléchère. On se retrouve à 11h pour un nouveau point sur l'information. Mais dans un instant, sur Europe 1, c'est face à Philippe Devilliers.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron ?
Tout est bon ?
Tout est bon dans le jambon de Paris décoiné et dégraissé de chez Lidl, patron. En ce moment, avec l'offre Super Weekend, il y a moins 50% sur le deuxième paquet de 6 tranches, soit 1,30€.
3,91€ les deux ! Ils nous prêtent pour des jambons ?
Ah, c'est un vrai prix tranché, patron. On est mal.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 10,88€ le kilo pour un produit, 8,15€ le kilo pour deux produits. Offre valable jusqu'au dimanche 28 avril. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100€ par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99€ par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1 584€ après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si à Cordiac, voir fr.renew.auto. Au quotidien, prenez les transports en commun.
On sort ce soir ? On pourrait aller au ciné. Ou aller voir une expo. Ou un concert. Ça fait des années qu'on n'en a pas fait. Bon, tu m'écoutes là ?
Hein, pardon, tu disais ? Excuse-moi, j'étais plongée dans une enquête sur le business des grands chefs cuisiniers. C'est incroyable !
Capital, jamais l'économie n'a été aussi captivante. Capital, premier magazine économique vendu en France. Disponible chez tous les marchands de journaux. Hé, tu me le prêtes ?
Vous changez de voiture ?
Vous achetez un récepteur de radio ?
Demandez le DAB+.
Le DAB+, c'est la radio avec un son de qualité numérique.
Chez But, qui dit promo dit ? Dit ?
Envie de changer de déco.
Voilà, c'est ça.
En ce moment, But vous fait 20% de remise des 3 produits achetés sur l'ensemble de l'univers déco. Oui, moins 20% pour décorer toute votre maison.
Voilà, voilà.
Sélection produits et conditions de l'offre en magasin et sur but.fr.
Face à Philippe Devilliers. 10h-11h sur Europe 1. Elliot Deval.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour face à Philippe Devilliers sur Europe 1 de 10h à 11h le samedi matin. Cher Philippe, bonjour.
Bonjour Elliot, bonjour Geoffroy et puis bonjour.
À la voix du foot.
À la voix du foot.
On a une petite surprise pour vous.
La grande figure légendaire, voilà. Moi, j'aimais Raymond Coppa, il est parti, il reste Jacques Vendroux.
Jacques Vendroux est avec nous ce samedi matin. Cher Jacques, bonjour.
Comment ça va ?
Eh ben, on est très heureux de vous retrouver pour face à Philippe Devilliers. C'était absolument pas prévu, je le dis aux auditeurs. Mais on devait commencer cette émission, pour tout vous dire, cher Jacques, par un carton rouge. Parce que je vous présente Philippe Devilliers, capitaine de l'Étoile sportive de Boulogne, numéro 5, qui n'a pas été convié cette semaine pour jouer aux côtés d'Emmanuel Macron, alors que, je peux vous dire, il a un pied droit magique, il a une qualité de défense. Vous êtes gaucher ?
Oui, gaucher.
C'est pas vrai, Philippe, ouais. Vous êtes gaucher.
Mais on m'a identifié longtemps à Piantoni.
Je suis gaucher.
Piantoni, super numéro 10. Oui. Bon, magnifique.
Ouais. Moi, quand j'ai regardé cette semaine le match du Variété.
Mercredi dernier.
Je me suis dit, mais il nous manque un numéro 5.
Oui.
Il nous manque Philippe Devilliers.
J'avais un problème existentiel très très grave. C'est-à-dire que dans l'axe central du fameux match de mercredi dernier avec le président... Il y avait, dans l'axe central, il y avait Laurent Blanc et Marcel Desailly.
Il se débrouille un peu.
Voilà, donc j'étais un petit peu embêté par rapport à Philippe, qui, je sais, pour avoir joué avec lui et contre lui dans une autre vie, c'est vrai que c'est un bon défenseur. Voilà.
Victoire 5-2 de l'équipe du président de la République, qui a été buteur, Jacques Vendroux.
Pénalty.
Si vous cherchez, chers auditeurs, un gardien de but, on ne va pas demander celui qui était en face du président.
En tous les cas, bonne émission.
Merci, cher Jacques.
Et à très vite.
Merci, Jacques. Face à Philippe Devilliers, de 10h à 11h. Décryptons cette actualité du vendredi, Philippe Devilliers. Sciences Po s'est embrasé une nouvelle fois, théâtre d'un blocus organisé par plusieurs collectifs pro-palestiniens. Des étudiants ont même dormi dans la nuit de jeudi à vendredi dans la prestigieuse école. Puis le vendredi matin, des barricades ont été installées, un sitting avec plusieurs centaines de personnes tout au long de la journée. Tout cela avec l'appui, le soutien de la France Insoumise, des députés comme Émeric Caron ou encore Thomas Porte. Il y avait même la candidate aux européennes, Rima Hassan.
Philippe Devilliers, vous qui êtes un ancien de Sciences Po, est-ce que vous reconnaissez votre Sciences Po ?
Non, je ne reconnais pas mon école. Sciences Po, c'était, en tout cas de mon temps, c'était un fleuron français parce que il se considérait, et on le considérait de l'extérieur, comme une institution originale, représentative de l'universalité française. Les facs de France regardaient Sciences Po avec jalousie. Tous les étudiants de France rêvaient d'entrer à Sciences Po, tous les littéraires en tout cas. Et Sciences Po était une institution où on était à gauche, enfin pas moi, mais mes camarades. Donc il y avait déjà les ferments de ce qui se passe. On était à gauche, c'est-à-dire qu'il y avait le scientisme qui circulait parmi les professeurs comme idéologie de fond. Le scientisme, ça voulait dire substituer au gouvernement des hommes l'administration des choses. C'est le consumérisme hédoniste appliqué à la politique. Après mai 68, on était dans la société de consommation. Et le scientisme, ça voulait dire aussi, le socialisme est devant nous pour 1000 ans. On pensait pas du tout que le mur allait tomber. Et donc, il faut trouver un accommodement raisonnable entre le capitalisme et le socialisme. Ça s'appelle la social-démocratie. Et donc, on nous enseignait les mérites de la social-démocratie. Mais là, ce à quoi on assiste, c'est l'américanisation de Sciences Po. Voilà, ils l'ont voulu, ils l'ont fait, ils l'ont. L'américanisation de Sciences Po, c'est le parrainage de Columbia, le partenariat avec une université américaine. Mm-hmm. Donc le mimétisme. Et quand la France veut imiter l'Amérique, elle imite la mauvaise Amérique, c'est-à-dire la fille incestueuse d'un protestantisme dévoyé et de la Révolution française. Et ça donne ce qu'on voit en ce moment.
Geoffroy Lejeune, vous avez une question pour Philippe Devilliers.
Oui, Philippe, Elliott l'a dit, vous avez été un étudiant à Sciences Po, vous avez été aussi un étudiant à l'ENA, donc quelque part un pur produit du parcours classique de nos élites républicaines d'il y a quelques années. Et pourtant, quand vous avez été le patron du département de la Vendée, vous avez créé un institut d'études supérieures privé, l'ICES, je crois, à La Roche-sur-Yon. Ma question, c'est simple, pourquoi vous avez fait ça ? Quelle était la carence déjà à l'époque que vous aviez identifiée dans l'enseignement public ou en tout cas dans tout ça ? Et est-ce que vous croyez que finalement le salut de la formation de nos élites passera en fait par le privé ?
Moi j'ai eu la chance de passer par l'enseignement privé et je voyais mes camarades d'en face qui étaient dans l'enseignement public et qui étaient moins performants souvent. C'est comme ça que je suis rentré à Sciences Po et à l'ENA en fait. Grâce à l'enseignement privé. Et donc, je me suis dit que... j'ai toujours pensé que le public, c'était le régalien, mais qu'en dehors du régalien, il faut laisser faire les gens, il faut laisser le privé. Laisser la concurrence, l'émulation. Partout où l'émulation et la concurrence, il y a le progrès, le vrai progrès.
Philippe Devilliers, j'ai une question à vous poser concernant ce blocus avec une mobilisation... disons-le, marginal des étudiants de Sciences Po. Dans la nuit de jeudi à vendredi, ce sont quoi, 60, 70 étudiants qui ont décidé de camper dans l'établissement. Et donc, c'est cette minorité qui vient bloquer un établissement où sont présents habituellement, quotidiennement, peut-être 2000 étudiants. Et donc, c'est sur cette... tyrannie, en quelque sorte, des minorités. Est-ce que vous l'aviez vécu ? Est-ce que vous aviez un temps alerté sur cette situation-là ?
Par-delà ce que vous dites, qui est important, effectivement, ce sont des minorités, mais les minorités sont toujours les minorités qui gagnent. Minorité agissante, donnez-moi 1000 hommes, disait Lénine. Il a réussi. Là, on est devant un phénomène beaucoup plus grave. Sciences Po, c'est... comment dirais-je ? C'est les chauguettes... qui doit pas nous cacher l'idée que derrière, il y aura le donjon central qui va tomber. c'est quoi le donjon central? C'est toute l'université française qui est gangrénée aujourd'hui. Toute l'université française suit l'Amérique. Mmh. Et donc, soyons concrets, elle est gangrenée par quoi, l'université française? Par l'islamo-wokisme. C'est-à-dire que vous avez les minorités agissantes dans toute l'université française qui infusent l'islamisme, mmh, et qui infusent le wokisme. Et par l'intersectionnalité, pour l'instant, ils se battent les uns avec les autres. Mais ils sont en train de détruire ce qui a fait la grandeur de la France. C'est-à-dire la fabrication des élites universelles, avec l'esprit d'ouverture.
Autre question,
vous vous rendez compte, Philippe, il se passe en ce moment. Nos universités sont en train de s'effondrer. Quand vous pensez que quelqu'un comme Florence Bergeau-Blaclair ou Sylviane Agazinski, qui est maintenant académicienne, elles ne peuvent plus aller dans une université.
Ou Geoffroy Lejeune, qui avait été invité à Sciences Po Lille, si je ne m'abuse, Geoffroy.
Oui. Et il y a eu cette... d'ailleurs.
Et à Paris également, ouais.
Il y a quelques années. Puis
la réunion années. Avait été annulée.
Ouais, bien sûr.
Peut-être que vous pouvez nous raconter cela.
Ah non, mais c'est une histoire connue, reconnue. Il y a eu aussi Alain Finkielkraut. Ça m'est même arrivé aussi dans une école de commerce. Ça m'est arrivé dans une université. C'est vrai que j'ai été invité par des étudiants qui souhaitaient m'entendre après avoir entendu d'ailleurs des personnalités de gauche ou de droite, peu importe. Et la pression des étudiants a fait céder les directions de ces établissements qui ont prétexté l'ordre public pour dire qu'il fallait pas que je vienne, en effet.
On se retrouve dans un instant pour Face à Philippe Devilliers. Juste après la publicité, on continue de parler de cette mobilisation au pied de Sciences Po et on va se poser cette question. Comment a-t-on pu laisser une telle mobilisation se dérouler tout au long de la journée de vendredi? A tout de suite sur Europe 1.
Face à Philippe Devilliers. 10h-11h sur Europe 1.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque? Non? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel? Prise de poids rapide? Pieds et chevilles gonflés? Fatigue excessive? Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie.
Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à ce soir, le kilo de pavé de saumon atlantique est à seulement 17,99€.
À ce prix-là, on va remplir les assiettes, le frigo et même le congélo.
Vous aimez le saumon, à ce que je vois? Vous faites les stocks?
Oh, comme si vous n'alliez pas venir goûter un de mes plats.
Si vous insistez...
Eh ben j'insiste.
Auchan, avec plaisir. 17,99€, le kilo de pavé de saumon atlantique, élevé en Écosse ou en Norvège. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
Nouveau Figaro Santé, votre magazine santé. Indispensable à notre équilibre digestif, le microbiote joue également un rôle essentiel sur notre cerveau. Mais comment bien le soigner? Traitements et médicaments existent désormais. Le Figaro Santé consacre son nouveau dossier au microbiote. Le Figaro Santé, nos solutions pour votre santé. Actuellement chez votre marchand de journaux.
Et si vous aviez l'occasion de rouler en première classe au prix de la seconde? DS Automobile présente le surclassement en DS3 Crossback d'occasion. Car si ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage, pourquoi vous contenter de bien quand vous pourriez avoir mieux? En ce moment, vivez une expérience de conduite premium à bord d'un DS3 Crossback E-Tense 100% électrique d'occasion à partir de 199€ par mois. Surclassez-vous avec DS Certified. Voir conditions sur dscertified.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Face à Philippe Devilliers. 10h-11h sur Europe 1, Elliot Deval.
De retour pour Face à Philippe Devilliers, bien sûr, avec Geoffroy Lejeune. On est ensemble sur Europe 1 jusqu'à 11h. On a parlé dans la première partie de Sciences Po. On continue d'aborder ce sujet-là. Vous, l'ancien de Sciences Po, cher Philippe Devilliers, on se pose une question ce samedi matin que tous les auditeurs se posent. C'est-à-dire que comment a-t-on pu laisser une telle mobilisation se déroulait en plein cœur de la capitale, au pied de l'établissement. J'ai le souvenir, par exemple, d'une mobilisation, on en avait parlé ensemble d'ailleurs, des agriculteurs. C'était en janvier ou en février dernier, si je ne m'abuse. Et les agriculteurs, vous savez, ils avaient décidé de faire un petit happening au pied de l'Arc de Triomphe à 6h du matin. Ils étaient venus avec des tracteurs pour déposer une gerbe de fleurs en hommage aux agriculteurs qui s'étaient donné la mort, qui s'étaient suicidés. Très rapidement, les forces de l'ordre sont intervenues et sur les 200 agriculteurs, on avait procédé à une centaine de garde à vue et d'interpellations. Donc je réitère ma question, Philippe Devilliers, comment a-t-on pu, vendredi, laisser se dérouler cette mobilisation?
Alors je pense que là on voit le spectacle de l'impuissance publique. L'impuissance publique, Sciences Po a eu des dirigeants paradoxaux, volontairement paradoxaux. Bon, on a vu comment ça s'est terminé. Sciences Po est une des premières écoles de France qui a adopté le principe américain de la discrimination positive. Donc Sciences Po, tout à coup, a voulu être à la mode. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que ce qui infuse partout en France, sauf dans le milieu de l'agriculture qui échappe à la pensée dominante, parce que ce sont des esprits indépendants et autonomes, ils ont l'indépendance d'esprit, et ils ont l'esprit d'indépendance. Mais ce qui infuse partout, c'est le fameux décolonialisme. Et il faut que les Français qui nous regardent comprennent bien ce que ça veut dire, le décolonialisme. C'est pas simplement une querelle Israël-Gaza, là, avec les kéfiers, le drapeau palestinien. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est derrière l'antisémitisme et derrière l'antisionisme, c'est l'anti-occidentalisme. C'est la dénonciation de ce qu'ils appellent le privilège de la blanchité. C'est l'hostilité au patriarcat. C'est l'hostilité à l'homme blanc hétérosexuel qui fait régner un ordre injuste et qui exploite l'humanité. C'est ça le décolonialisme. Le décolonialisme rejoint la phrase de Macron, il n'y a pas de culture française. Ou encore l'autre phrase de Macron en Algérie, quand il a dit je dénonce dans le colonialisme un crime contre l'humanité. Ça, on le paye très cher, ça. C'est-à-dire que c'est des générations de gens qui nous ont expliqué en 14, vos parents, vos grands-parents, c'était des mutins. En 40, c'était des collabos. En Algérie, c'était des terroristes et des tortionnaires. Bon, qu'est-ce qui reste? Donc, le pauvre gamin à qui on dit toute la journée, t'as pas honte de ton pays? Un pays penaud qui se traîne et qui noircit son âme, il n'existe plus. Et tous les pays, et d'ailleurs la démographie c'est la ligne de flottaison, tous les pays qui ont accepté de noircir leur âme, ils ont disparu.
Philippe Devilliers, une dernière question à présent, toujours sur ce blocus. On a vu un défilé de responsables politiques venant que d'un groupe, la France Insoumise. On a vu Aymeric Caron, Thomas Porte, on a vu Rima Hassan, qui d'ailleurs sera convoqué la semaine prochaine pour apologie du terrorisme, qui est candidate aux européennes. Quel est le lien que vous faites entre l'aspect politique, les discours, par exemple, de la France Insoumise et ce blocus au pied de Sciences Po?
La démocratie est fondée sur le nombre. C'est un principe. Le nombre, ça veut dire qu'il faut être plus nombreux que les autres. Et quand vous n'êtes pas plus nombreux, vous restez dans la minorité. Donc vous écrivez des livres. Vous allez à la pêche à la ligne. Mais si vous voulez être majoritaire, il faut aller chercher les voix. Mélenchon, il est très intelligent et il a le sens de l'arithmétique. Il va chercher les voix là où c'est que, comme dit mon voisin, là où c'est qu'elles sont. Elles sont où les voix aujourd'hui? Les voix qui ne sont pas prises ailleurs, elles sont dans les banlieues. Et donc, Mélenchon, il applique le vieux principe marxiste du lumpenprolétariat. Et donc, il y a cette chose extraordinaire qu'il faut redire aux Français. Dans les années 80, il y a un think-tank qui s'appelle Terra Nova et qui a expliqué, voilà, on ne peut plus gagner, la gauche, parce qu'en fait, on a accepté la mondialisation heureuse qui s'est traduite par des délocalisations massives, donc on n'a plus d'ouvriers. Et les ouvriers qui restent, comme ils sont pas contents de nous, ils vont en face, dans la crèmerie d'en face. Et donc, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste les minorités. Minorités homosexuelles, minorités féministes, etc. Et naturellement, les banlieues, et naturellement, l'islamisme et le wokisme. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? La démographie traditionnelle de la France, la démographie bourgeoise de la Macronie et de la droite classique, qui passe son temps à avaler toutes les couleuvres qu'on lui propose, c'est une démographie déclinante. Alors que la démographie des banlieues, elle, c'est une démographie montante. Donc en fait, Mélenchon, qu'est-ce qu'il se dit? Il suffit de patienter, et de patienter soit pour gagner le premier tour de l'élection présidentielle, qui ne s'occupe pas du tout de ce qui se passe en ce moment avec l'élection européenne, soit d'opérer un chaos. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que Jean-Luc Mélenchon, qui au fond de lui-même est un vrai révolutionnaire, il s'en fout des élections en fait. S'il peut y arriver par la voie de l'élection, il le fera. Mais s'il voit qu'il peut pas et que il peut faire une révolution, il le fera. Il connaît l'histoire de France, 1830, 1848, 1789, etc. Il sait comment ça se passe. Il sait comment on entretient un bouillon de culture et comment on lève une troupe de terroristes.
Philippe, je vous ai posé tout à l'heure une question sur l'école que vous avez créée à La Roche-sur-Yon, parce que vous vous adressez souvent à la jeunesse, parce que c'est notre avenir. Vous avez même créé d'ailleurs aussi une école au Puy-du-Fou. Enfin, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Là, on a sous les yeux les images de la jeunesse, nos futures élites qui sont encore dans leur jeunesse aujourd'hui. Sciences Po, c'est en théorie et encore en pratique l'endroit où on forme ceux qui vont nous diriger demain, ceux qui vont diriger l'économie, ceux qui vont diriger les administrations, qui vont faire de la politique, etc. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces images, quand vous savez que peut-être ces gens-là, demain, nous gouverneront? Est-ce que vous pensez que c'est une génération qui va changer beaucoup de choses, qui seront très différents de leurs aînés? Ou est-ce que finalement, ça a toujours été le cas depuis mai 68 et il y a un équilibre qui se crée? Est-ce que c'est inquiétant pour la suite, pour les gens qui nous dirigeront plus tard, ce qu'on est en train de voir en ce moment?
Tous ces gens, si vous voulez, ils ont vécu dans l'ambiance de Viviani, qui parlait du socialisme révolutionnaire, qui disait « Nous avons arraché les consciences humaines aux traditions désuètes. » Lorsque le misérable ployait sur ses genoux, fatigué par la fatigue, par le jour, par le poids du jour, alors nous l'avons relevé et nous lui avons dit « Au-dessus des nuages, il n'y a rien, il n'y a que des chimères. » Chers amis, par un geste magnifique, tous ensemble, nous avons éteint dans le ciel toutes les lumières. On ne les rallumera plus. Voilà notre œuvre révolutionnaire. Ben bravo. Parce que un pays peut pas vivre sans une petite lumière. Un pays peut pas vivre sans respecter sa tradition. Un pays ne peut pas vivre durablement avec la table rase. Un pays a besoin d'aimer son destin, et pour aimer son destin, il faut qu'il aime son passé, il faut qu'il se ressource, qu'il ressource ses songes, qu'il ressource ses rêves, qu'il vive et revive de ses attachements vitaux. Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que ces jeunes-là, ils vivent dans l'instant consumériste, hédoniste. On leur a rien donné. On n'a pas su élever leur regard avec quelque chose de grand qui s'appelle la France. Moi, je crois plus qu'il soit possible de dire aux jeunes ce qu'on disait de mon temps. Regarde la France, aime-la parce qu'elle est grande. Aime-la parce qu'elle est puissante. Vous voyez, le truc de Macron hier sur la puissance, ça marche plus chez les jeunes. Ils sont écorchés vifs. Il faut leur dire, regarde la France comme elle est belle. Et si on faisait ça, on gagnerait parce que c'est vrai.
Bon, voilà ce qu'on pouvait dire, Philippe de Villiers, sur Sciences Po et cette manifestation. Je vous propose qu'après la publicité sur Europe 1, on parle d'autres sujets qui ont marqué l'actualité cette semaine, et notamment de la GPA qui est revenue dans le débat public. On en parle dans un instant sur Europe 1. On est ensemble, je le rappelle, aux auditeurs jusqu'à 11h. À tout de suite après la publicité.
Bonjour, c'est Laurent Mariotte.
Europe 1, la table des bons vivants.
Une vague de froid a traversé le pays. Quel impact sur les futures récoltes et les vignes? On en parle avec nos agriculteurs. La chef Stéphanie Lequellec nous rejoint pour le plat du jour. Ancienne candidate et aujourd'hui jurée de l'émission Top Chef, nous profitons de sa présence pour passer les concours de cuisine à la casserole. Des petits pois, du tarama, de jolis vins, il ne manque plus que vous.
La table des bons vivants.
Rendez-vous tout à l'heure de 11h à 12h30 sur Europe 1.
Grand frais.
Ouais, Francky, bon, je vais pas pouvoir venir te chercher à la gare, hein. Là, je peux pas, j'ai grand frais. Ils ont une burrata ultra crémeuse, parfait pour ma salade de tomates. Donc, attends-moi un peu, t'inquiète, j'en ai pour 4 heures max.
Chez grand frais, retrouvez chaque jour des petits prix. Et jusqu'à samedi, la burrata des pouilles de 150 grammes est à seulement 2,49€. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand frais !
Le meilleur marché.
Soit 16,60€ le kilo, pourcentage de matière grasse précisé sur le lieu de vente, au lait de vache, élaboré en Italie. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Tic-tac, 4 jours exceptionnels vous attendent chez Ixina. Durant ces portes ouvertes, Ixina vous offre non pas 150, mais 200€ par tranche de 1000€ sur votre cuisine équipée. Pour en profiter, rendez-vous en magasin avant le 28 avril.
Ixina, vie à vos rêves. Voir conditions sur ixina.fr.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Face à Philippe Devilliers. 10h-11h sur Europe 1. Elliot Deval.
De retour sur Europe 1 pour Face à Philippe Devilliers, toujours avec Philippe bien sûr et Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction du JDD. Messieurs, parlons de la GPA qui est revenue dans le débat public cette semaine avec une question. Où est la maman? S'est interrogé Marion Maréchal après l'annonce de paternité du designer Jacques Musse et de son mari devenu parent de jumeaux. La tête de liste Reconquête a été accusée pour ce tweet d'homophobie, directement attaquée d'ailleurs par la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot. Je rappelle sa déclaration, cette homophobie est décomplexée, est hallucinante. Aujourd'hui, nous fêtons les 11 ans de l'adoption du mariage pour tous, une grande victoire pour l'égalité. Continuons à nous mobiliser contre toutes les formes de discrimination et pour garantir les droits de tous les citoyens. Philippe Devilliers, comment vous expliquez cette polémique alors que, je le rappelle, la GPA est interdite en France et tout le monde le sait?
Alors justement, c'est incompréhensible parce que Marion Maréchal, en fait, a fait un rappel au bon sens. La GPA est interdite en France et elle est même maintenant interdite en Europe puisque l'Europe a pris une décision récente qui classe la GPA dans la catégorie du trafic des êtres humains. C'est tout dire. Donc elle a eu raison, et c'est une forme de courage que de dire la vérité, de rappeler tout le monde au bon sens. Mais ça va plus loin. Elle a eu raison parce que, comme l'a dit le professeur Friedman, la GPA est une aberration biologique, sociale et psychologique. Du côté de la mère, c'est la marchandisation du vivant, c'est la location des ventres. Vous savez, Pierre Berger disait l'ouvrier loue ses bras et donc la femme peut louer son ventre. Voilà. C'est l'avènement du corps vénal. C'était absolument honteux. Et puis pour l'enfant, est-ce que vous imaginez l'enfant quand il devient adulte et qui nous dit, voilà, mais j'apprends que j'ai été fait par une transaction commerciale. Donc c'est... Voilà. Il y avait un mot du président de la République qui disait, c'est contraire à la dignité. Mais en fait, je vais vous dire ce qui est en train de se passer. Et là aussi, elle a raison. Elle a prévenu Marion Maréchal, elle a dit, voilà, la banalisation précède la légalisation. Elle a compris une chose que moi, je peux vous raconter. Quand il y a eu le mariage pour tous, quand il y a eu le Pax,
bien sûr,
on nous a dit c'est pour éviter le mariage pour tous. Et toute la droite, comme un seul homme, a foncé. Je les revois tous. Bon, quand même, Philippe, attends. Et il y a une porte coupe-feu. Bon, on a eu donc et le PACS et puis le mariage pour tous. C'est dans le mariage pour tous, il y a, oui, mais il n'y aura jamais l'adoption pour les couples homosexuels. Et on a eu l'adoption, on a eu la PMA même. Et puis, quand il y a eu la PMA, on nous a dit, il n'y aura jamais la GPA. Et là, la petite musique que vous avez citée, Elliot, avec la porte-parole, qui est inénarrable, cette porte-parole, c'est la reine de la gaffe. Hein. Donc, elle s'est engouffrée en disant homophobie, etc. Ça n'a rien à voir. Bon. Et peut-être qu'elle ignore la position du président de la République, mais peut-être aussi que le président de la République, il attend que les choses évoluent pour pouvoir nous dire le jour venu, comme pour la fin de vie, bon, ben, allons-y. Voilà. Mmh. Et donc, en réalité, on est en train de se laisser entraîner par le fond, par une vague de banalisation qui prépare probablement une loi laxiste.
Geoffroy, une question pour Philippe.
Une question, c'est que vous venez de décrire ce qu'on appelle l'effet cliqué qui nous a fait passer du PACS au mariage, du mariage à l'adoption, l'adoption, la PMA, la GPA. Mais je sais que vous avez consacré beaucoup de lignes à l'après, à ce qui est après la GPA, c'est-à-dire le transhumanisme. Vous pensez que c'est quoi le projet qui suivra la GPA? Les cliquets d'après, ce sera lesquels?
Ah ben, je vais vous dire, c'est le transgenre. Voilà. Donc on y est là. On y est presque. Voilà. Donc le transhumanisme, c'est la fin de la frontière anthropologique entre l'homme et le robot. Donc c'est le camp d'après.
On parlera dans un instant d'autres sujets, mais je voudrais que vous avez parlé du président de la République. C'est vrai qu'en 2017, il avait dit « Pendant mon quinquennat, la GPA restera interdite en France ». C'est une question d'éthique et une question de dignité. Parlons d'Emmanuel Macron, qui, à moins de 50 jours des élections européennes, s'est exprimé pendant quasiment 2 heures à l'université Paris-Sorbonne ce jeudi, une sorte de profession de foi européiste. Beaucoup se sont inquiétés du fond comme de la forme de ce discours. Était-il dans son rôle? Est-ce le lieu, le moment? Et puis, il a beaucoup parlé de la souveraineté européenne comme boussole, une Europe mortelle comme menace. On l'écoute?
Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir. Elle peut mourir, et cela dépend uniquement de nos choix. Mais ces choix sont à faire maintenant.
Geoffroy Lejeune.
C'est en 7 ans le deuxième grand discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne, d'ailleurs, dans les deux cas sur l'Europe, et on n'a jamais eu de grand discours sur la vision de la France. Est-ce que vous le trouvez finalement plus à l'aise sur ce terrain?
Je pense que les gens n'ont pas compris le discours. Je pense que c'est un discours majeur. Pour la raison suivante, c'est qu'il a congédié l'article 5 de la Constitution, et c'est la première fois. Le président de la République, je cite, est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Il a tout balancé. Et il a substitué, pour la première fois, à la souveraineté nationale qu'il n'a pas nommée, la souveraineté européenne. Qu'est-ce que ça cache? Ça cache ce qui est en train de se préparer au niveau européen, avec le PPE et avec l'Allemagne. Premièrement, première nouveauté, l'élargissement à 35 voire 40 pays. La Moldavie, l'Ukraine et naturellement les Balkans. Donc c'est plus gérable. Où sera la frontière? Deuxièmement, la fin du droit de veto, c'est-à-dire que la France sera mise en minorité, y compris sur sa diplomatie, avec une armée qui va voir disparaître notre industrie de défense, ce que Éric Trappier a dit avec éloquence et beaucoup de bon sens à Sonia Mabrouk il y a quelques jours ici même. C'est impressionnant. On va perdre ce qui nous reste, notre industrie de défense. Et puis, il y a l'impôt européen, il l'a dit entre les lignes, avec le grand emprunt. Et puis, dernier point, on va perdre notre siège au Conseil de sécurité au moment où on va devoir partager notre protection nucléaire. Donc, c'est énorme ce qui est en train de se passer. C'est énorme. Et le dernier point que je voudrais citer, c'est qu'il a dit « l'Europe peut mourir ». L'Europe et la France. La France porte le deuil d'une grandeur défunte. Elle a connu dans son histoire bien des malheurs et s'est toujours relevée. Pour la première fois, ayant traversé des épreuves dont elle est sortie douloureuse et victorieuse, pour la première fois, elle ressent la crainte de devoir disparaître. Et le président de la République, avec jubilation, nous a expliqué que l'Europe peut mourir. Qu'importe les Français, qu'importe la France. D'ailleurs, à la fin, il a dit « Vive la République, vive l'Europe, vive la France. » On vient en troisième. Encore heureux.
Allez, cher Philippe et Geoffroy, je vous propose qu'on se retrouve dans un instant après la publicité pour parler d'un sujet tabou, d'un livre qui cartonne et pourtant censuré dans les rues de Paris. On va parler de Transmania et on va revenir sur la question de la transidentité qui a été abordée notamment par les députés et sénateurs Les Républicains, qui est un sujet fondamental mais sous-traité médiatiquement et politiquement. À tout de suite pour Face à Philippe de Villiers sur Europe 1.
Face à Philippe de Villiers. 10h, 11h sur Europe 1.
Bonjour, c'est Sonia Mabrouk.
Le grand rendez-vous Europe 1.
Demain, le grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Notre invité, François-Xavier Bellamy, tête de liste LR aux élections européennes. Le discours à la Sorbonne d'Emmanuel Macron sur l'Europe, la bataille électorale qui s'accélère et l'enjeu de survie pour la droite. Sur tous ces sujets, rendez-vous demain sur Europe 1 et CNews.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1. Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque ? Non ? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel ? Prise de poids rapide ? Pieds et chevilles gonflés ? Fatigue excessive ? Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, elles sont à 2,99€.
Les fraises rondes ?
Eh oui, en ce moment chez Lidl, la barquette de 500 grammes est à 2,99€.
Ils sont encore et toujours moins chers que nous.
Eh oui, je vous en ramène une barquette, avec de la chantilly, ça vous dit ?
Toi ramène ta fraise, t'es mal embarqué.
En barquette, patron.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 5,98€ le kilo, catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres. Mais le principal, c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Enfin, au livre de poche, le thriller ésotérique du duo star Giacometti et Raven. Le Graal du Diable. 1944, des partisans anti-nazis terrorisent la région des Balkans. Tristan Marcas plonge de nouveau dans les coulisses occultes de la Seconde Guerre mondiale, en quête du Graal. Le Graal du Diable, de Giacometti et Raven, au livre de poche.
Et si vous aviez l'occasion de rouler en première classe, au prix de la seconde ? DS Automobile présente le surclassement en DS7 Crossback d'occasion. Car si ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage, pourquoi vous contenter de bien quand vous pourriez avoir mieux ? En ce moment, vivez une expérience de conduite premium à bord d'un DS7 Crossback E-Tense hybride rechargeable d'occasion à partir de 390€ par mois. Surclassez-vous avec DS Certified. Voir conditions sur dscertified.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Face à Philippe de Villiers. 10h-11h sur Europe 1. Elliot Deval.
Suite et fin de Face à Philippe de Villiers avec Philippe et Geoffroy Lejeune. Messieurs, elles s'appellent Marguerite Stern et Dora Moutot, deux militantes féministes qui ont décidé de prendre la plume pour publier un livre sur la question de la transidentité. Ce livre, qu'on partage ou non d'ailleurs les positions des auteurs, est une réussite. Et pourtant, la mairie de Paris a décidé de bannir toutes les publicités dans les rues de la capitale, considérant que ce livre est transphobe. Marguerite Stern était l'invitée cette semaine de l'Heure des pros, et elle a pu parler de ces 4 années où elle a enquêté sur cette question-là, et les pressions qu'elle a pu subir, et la censure qui s'est construite autour de cet ouvrage.
Moi, je me suis pris des œufs dans le visage en manifestation.
Parce que Dora faisait, quand vous dites qu'elle a perdu tous ses contrats.
Dora était influenceuse sur Instagram, donc elle travaillait avec des marques. Et petit à petit, en fait, toutes les marques ont annulé ces contrats avec elle parce que Dora a commencé à dire que les femmes sont des femelles, qu'être une femme est une réalité biologique, qu'on ne veut pas d'hommes sur les podiums sportifs féminins, enfin des choses quand même de base sur lesquelles on devrait tous pouvoir s'entendre. Et donc, à cause de ça, oui, elle a perdu tous ses contrats. Donc, en fait, cette censure, cette violence, nous, ça fait 4 ans qu'on l'a subie et on n'est pas très surprise qu'elle s'exerce à l'encontre de notre livre dans le cadre de cette campagne de promo. Mais par contre, ce qu'on remarque aussi, c'est que on est censuré d'un côté, mais d'un autre côté, il y a un véritable intérêt pour le livre, en fait.
Philippe Devilliers, comment expliquez-vous cette censure autour de ce livre, et je le disais, qui truste les premières places des ventes?
Je les ai appelés, ces deux auteurs, et elles m'ont impressionné par leur courage et aussi leur bon sens. En fait, elles traversent 3 épreuves. La censure au sens judiciaire, puisqu'elles sont traînées devant les tribunaux. C'est elles les délinquantes, vous vous rendez compte, pour avoir dit que être une femme, ce n'est pas un ressenti. Ça, c'est un délit. Vous vous rendez compte où on en est? Ensuite, la censure médiatique, c'est la Lali. Et enfin, la censure de la solitude. Parce qu'elles viennent de la gauche. Alors la gauche dit ce sont des renégates, et comme elles viennent de la gauche, la droite dit oh là, on n'y va pas. Voilà. Bon, en réalité, pour les tenants de l'idéologie transgenre, selon la formule du planning familial, le sexe c'est un construit social. C'est-à-dire que la dichotomie mâle-femelle est considérée comme une invention de l'esprit. Or, elles, qu'est-ce qu'elles disent pour résumer leur position et leur livre, qui est magnifique, que j'invite à lire? Elles disent, si jamais le transgenrisme et le transhumanisme aboutit, si ce projet aboutit, alors cet aboutissement marquera la fin de l'être humain tel que nous le connaissons.
Geoffroy Lejeune, vous avez une question pour Philippe.
C'est un peu ce que vous venez de dire que je voulais vous faire développer, c'est-à-dire que quand il y a une censure, c'est une volonté d'empêcher de débattre d'un sujet. Or, tout à l'heure, quand vous avez décrit la mécanique des cliquets en matière de loi sociétale, vous avez dit que c'était la prochaine étape dans le projet de l'avènement du transhumanisme, qui était la dernière étape avant la rupture, je vous cite, de la frontière anthropologique entre l'homme et le robot.
Oui, alors en fait... je ne sais pas si on a le temps...
Allez-y, vous avez 3 minutes. Oui. Je sais que vous êtes chirurgical.
Non, mais pour répondre à Geoffroy, si vous voulez, dans l'histoire de l'humanité, c'est la première fois que l'homme démurge tente de fabriquer un homme nouveau désincarné, c'est-à-dire sans incarnation. Le premier homme nouveau, avec la régénération baptismale, c'était saint Paul. Il y a eu la révolution, qui a fait suite au rousseauisme. Et le rousseauisme, c'était l'idée de débarrasser l'homme nouveau, le nouvel homme nouveau, de sa finitude originelle. C'est le progressisme. Et donc là, il y a eu la première régénération des constructions avec le rousseauisme. Ça a donné Condorcet, ça a donné Diderot, qui voulait fabriquer une espèce humaine nouvelle. Il y a même Maupertuis qui a dit « il faut des haras humains ». C'est-à-dire c'est l'homme délié. Première étape. Délié de tout. Deuxième étape, c'est le boboïsme. Le bourgeois bohème qui hérite d'un nouveau modèle sociétal, le capitalisme libertaire. Ce capitalisme libertaire, ce modèle sociétal, en fait, aspire... aux non-limites des libertaires et aux non-frontières des libéraux. Et cet idéal mercantile fabrique et prépare un individu global, remplaçable, substituable, sans mémoire ni postérité. Et la troisième étape, on est en train de la vivre, avec le wokisme. C'est la fin de toute frontière physique pour une société multidéculturée décoloniale, et la fin de la frontière anthropologique. Alors vous avez la fin de la frontière entre les sexes, nous y sommes, la fin de la frontière entre l'animal et l'homme, la fin de la frontière entre la mort et la vie, avec l'euthanasie, et la fin de la frontière entre l'homme et le robot. Alors on est passé donc de l'homme nouveau délié à l'homme nouveau des affiliés, et maintenant à l'homme nouveau, auto-engendré. En fait, c'est un jardin d'Éden à l'envers. Homme et femme, il les a faits. Le serpent arrive et dit « Sicut dei eritis, vous serez comme des dieux ».
Philippe de Villiers, le printemps, on l'attend. Le printemps, cher Philippe, il fait un... chez vous en Vendée, il fait un froid de canard également, c'est comme à Paris.
Il fait toujours beau, il y a un microclimat.
Parce que nous, vous savez que cette semaine, on a ressorti les bonnets. Hein.
Ouais.
J'étais à deux doigts de mettre le chauffage ouais. au mois d'avril. Philippe de Villiers, on dit souvent quand même, Avril ne te découvre pas d'un film, mais fais ce qu'il te plaît. Mais c'est vrai qu'on attend un peu de soleil, un peu de chaleur. Et dans cette émission, cher Philippe, vous souhaitiez revenir sur le printemps de vos enfances. Pourquoi vos enfants ?
Vous me laissez un peu de temps, là ?
Je vous laisse 4 minutes.
C'est contractuel.
C'est contractuel, exactement.
Vous allez voir où je vous en ai. D'abord, quand j'étais petit, la première musique qu'on mettait avec ma sœur Bibiane et mon frère Bertrand, c'était le printemps de Vivaldi. Et mon père disait, là, plutôt que d'écouter les nouvelles, écouter le printemps de Vivaldi. La musique rend heureux. Voilà. Moi, je me souviens effectivement des printemps de mon enfance, de mes courses folles parmi les primes verts, les azures, carmin, safran, qu'on piétinait. C'était un éblouissement et une ivresse. On entendait au loin la brise légère dans laquelle venaient s'installer les cloches des accordailles qui déposaient dans la nappe profonde de la conscience les sonorités vitales. Et puis la vie s'écoulait au fil de petits ruisseaux à cresson qui chantaient entre les ors des mimosas. J'étais captivé par le chant nuptial d'un chardonneret, un répertoire éblouissant. On l'appelait le Mozart des cimes. Et mon panthéon de personnages était composé de figures de voisinage, de mes voisinages. Il y avait des gens importants. Le premier, c'était Raymond Martin. C'était le garde champêtre qui s'en allait répétant matin, midi et soir, plus ça va, moins ça va. Si ça continue, il faudra que ça cesse. Et puis, il y avait Olivier, le cantonnier, qui levait son verre d'eau de vie en tremblant et qui prétendait descendre en ligne directe de Noé, la dernière ivresse mystique, martelait-il. Ces gens-là étaient illettrés et cultivés. Et puis, il y avait mon voisin, mon cher voisin Samuel, courbé sur son brabant, qui épousait l'arrondi de son champ pour creuser son sillon. Et moi, je le moquais en disant « Il n'est pas droit, ton sillon, il est courbe. » Et il me disait « Mon petit gars, quand l'ouvrage va être fini, tu viendras avec moi de loin, tu verras, il sera droit. » Ainsi, cet homme était-il habité, sans le savoir, par la loi du Parthénon, dont les colonnes évasées le sont pour paraître droite de loin. Ça s'appelle l'esthétique paysanne. On descendait ensemble à la cave, le soir, et où le mot était rare, lesté de tanin, nous étions du même arpent, nous étions du même sarment. On pouvait se parler par onomatopée. La vie, la nature, était une fête, une liturgie. Il y avait la dévotion populaire, il y avait les reposoirs, il y avait la procession d'érogation au printemps qui suppliait, implorait le ciel après les semailles pour une juste récolte. Et puis, par un matin lugubre, plusieurs printemps plus tard, tout est dévasté. La terre est éventrée. Tout est sous champ l'air, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus d'oiseaux, le chardonneret est parti, silence, sépulcral. Et on nous explique, c'est le remembrement, c'est le progrès. Et un peu plus loin, en marchant vers l'école, on entre dans l'église Et là, c'est un autre remembrement. L'aggiornamento. On décèle les statues, on installe une table à repasser, le crack de la transcendance. Combien de nouveaux printemps faudra-t-il pour que l'homme postmoderne, l'individu global, retrouve le goût et le sens de la nature et du sacré? Combien de printemps faudra-t-il pour que l'homme comprenne qu'il a un besoin vital pour survivre, de respirer entre l'humus et la lumière?
Chirurgical, je le disais. Eh bien, écoutez, un grand merci, Philippe de Villiers, de nous avoir plongé dans le printemps de vos enfances. C'était une parenthèse, comme chaque vendredi soir, ces moments, ces parenthèses, et ces samedis matins, bien sûr, sur Europe 1, des parenthèses enchantées. Merci, Philippe de Villiers.
Merci, Elliot. Merci, Geoffroy.
Merci à tous les deux. Bon week-end.
On se retrouve la semaine prochaine de 10h à 11h. Le temps pour moi de vous rappeler que vous pouvez retrouver sur Europe 1 Au cœur de l'histoire tous les samedis et dimanches de 15h à 16h sur Europe 1. Artiste scientifique ou politique, de Ramsès II à Vincent Van Gogh, en passant par Napoléon et Marie-Antoinette, partez à la rencontre des figures inspirantes de l'histoire avec Virginie Giraud tout à l'heure. Plongée au cœur du grand procès de l'histoire, le procès de Galilée, était condamné pour avoir dit que la Terre tournait autour du Soleil. Et le procès de Jeanne d'Arc, brûlée vive pour sorcellerie alors qu'elle a sauvé la France. Vous en aviez d'ailleurs parlé, cher Philippe de Villiers. Et demain, Virginie Chérault vous raconte Al Capone, tout autre sujet, emprisonné à Alcatraz, non pas pour ses crimes mafieux, mais pour ne pas avoir payé ses impôts. Voilà le programme Au cœur de l'histoire, samedi et dimanche, de 15h à 16h sur Europe 1. Mais tout de suite, c'est Laurent Mariotte pour la table des bons vivants. Cher Laurent, sur Europe 1, quel est le menu ce samedi matin?
Bonjour Elliot, ça ne vous a pas échappé, hein, cette semaine avec le froid, nos agriculteurs étaient sous tension. Alors on va faire le point avec eux dans un instant. Et puis nous allons aussi passer les concours de cuisine télévisés à la casserole avec notre invitée, la chef Stéphanie Lekelec, ancienne candidate et aujourd'hui jurée. A tout de suite.
Grand frais.
Ouais, Francky, bon, je vais pas pouvoir venir te chercher à la gare, hein. Là, je peux pas, j'ai grand frais. Ils ont une burrata ultra crémeuse, parfait pour ma salade de tomates. Donc, attends-moi un peu, t'inquiète, j'en ai pour 4 heures max.
Chez Grand Frais, retrouvez chaque jour des petits prix. Et jusqu'à samedi, la burrata dépouille de 150 grammes est à seulement 2,49€. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand frais!
Le meilleur marché.
Soit 16,60€ le kilo, pourcentage de matière grasse précisé sur le lieu de vente, au lait de vache, élaboré en Italie. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Une série de crimes hors normes. Un réalisateur fou retiré dans ses montagnes. Une étudiante en cinéma trop curieuse. Pour l'inspecteur Servaz, l'horreur vient d'entrer en scène. Découvrez Un œil dans la nuit, un thriller glaçant de Bernard Minier aux éditions Pocket.
Il était une fois une vaillante jeune fille ayant quitté son sud natal pour étudier. Pour retrouver le bon goût de chez elle, elle croqua dans le nougat de Montélimar, pays gourmand, reconnu saveur de l'année 2024 à 3,19€ les 200 grammes chez Aldi. Et c'était comme à la maison. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, 15,96€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks, info sur aldi.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés
et
sucrés.
Entre passé et présent, héritage culturel et création contemporaine, l'artiste Jiang Chong-er réinterprète les traditions chinoises millénaires au musée Guimet. Des installations monumentales et spectaculaires, une réflexion visionnaire sur le temps, un parcours sensoriel et spirituel comme un pont entre la France et la Chine. Gardien du temps à découvrir dès maintenant au musée Guimet avec Europe 1.
Banque coopérative, la Caisse d'épargne Île-de-France, ce sont 5000 femmes et hommes qui œuvrent au quotidien pour accompagner leurs clients et développer une économie durable. Jour après jour, la Caisse d'épargne Île-de-France poursuit sa mission, agir dans l'intérêt collectif et être utile à chacun. La Caisse d'épargne Île-de-France, une banque responsable, engagée au service de sa région.
Nouveau Figaro Santé, votre magazine santé. Indispensable à notre équilibre digestif, le microbiote joue également un rôle essentiel sur notre cerveau. Mais comment bien le soigner? Traitements et médicaments existent désormais. Le Figaro Santé consacre son nouveau dossier au microbiote. Le Figaro Santé, nos solutions pour votre santé. Actuellement chez votre marchand de journaux.
Renew.
Le dispositif gouvernemental Mon Leasing Électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si à Cordiac, voir fr.renew.auto. Pensez à covoiturer.
Vous changez de voiture?
Vous achetez un récepteur de radio?
Demandez le DAB+.
Le DAB+, c'est la radio avec un son de qualité numérique.
Jardiland célèbre son jardiversaire. Jusqu'au 5 mai, c'est la fête en magasin et sur jardiland.com. Au programme, des offres exceptionnelles, des animations et surtout notre grand jeu.